Il est 8h. Et à la une, l'âge de 64 ans. C'est une information révélée ce matin. Le scénario d'une réforme des retraites avant la présidentielle est sur la table. À l'Élysée, on veut toucher à un paramètre, l'âge de départ, qui serait progressivement repoussé de 2 ans. Réformer, c'est un pari politique après le revers de la majorité au régional, tandis que Xavier Bertrand, réélu, lance déjà le match avec ses rivaux de droite, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Et puis dans ce journal, le Covid-19 face à la météo. Avec le recul de l'été dernier, on connaît mieux l'impact des conditions saisonnière sur la propagation de l'épidémie. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une abstention vertigineuse qui n'est pas un phénomène ponctuel. Allons plus loin ce matin pour l'analyse ainsi que sur la tectonique des plaques politiques à droite et à gauche. Mon invité, Dominique Régnier, professeur des universités et directeur général de la Fondapol. Rendez-vous 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. C'est un chantier lancé dès le début du quinquennat qui a mobilisé un haut commissaire, souvenez-vous de Jean-Paul Delevoye, mais aussi un secrétaire d'État, 2 ministres du Travail, suscité des dizaines d'heures de consultation des syndicats et des semaines de grève en décembre 2019. La mère des réformes, celle des retraites, sera-t-elle osée avant la mère des élections, celle de la présidence de la République?
Et on vous retrouve, Nicolas Barré, rebonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors vous nous le révéliez dans votre éclairage éco. À 7h15, plusieurs poids lourds de l'exécutif veulent une réforme dans les mois qui viennent.
Oui, une réforme qui serait donc enclenchée avant la présidentielle. L'Élysée pourrait en effet décider de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et d'inscrire cette mesure dans le budget de la Sécurité sociale soumis au vote du Parlement à l'automne. Vous l'avez dit, des poids lourds du gouvernement comme Bruno Le Maire ou Sébastien Lecornu poussent dans ce sens, même si la mesure, aussi près de l'échéance de 2022, fait débat. C'est un risque pour Emmanuel Macron, mais cela lui permettrait de montrer qu'il mène les réformes jusqu'au bout et accessoirement de piéger les candidats de droite déjà favorables à une telle réforme pour faire des économies.
Alors concrètement, cette réforme s'appliquerait à partir de quand ?
Alors si elle est votée à l'automne, elle s'appliquera par étapes de 6 mois en 6 mois. Ceux qui sont nés en 1961 partiraient à la retraite 6 mois plus tard que prévu, à 62 ans et demi en 2022-2023 et ainsi de suite jusqu'à la génération née en 1964 qui serait la première à partir à 64 ans. C'est une mesure qui rapporterait environ 14 milliards d'euros à l'horizon 2026, c'est donc considérable. De nombreux rapports, dont celui remis il y a quelques jours par les économistes Jean Tirole et Olivier Blanchard, soulignent la nécessité d'une telle réforme. Mais le pari politique est audacieux. Syndicats et patronats ont déjà fait savoir qu'ils aimeraient avoir plus de temps pour discuter d'une réforme aussi lourde.
Et chacun ce matin aura à noter hein, cette date de naissance, 1961, la date à partir de laquelle hein, ceux qui seraient nés après cette date seraient concernés par cette réforme. Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos, je renvoie à votre journal ce matin. Et l'âge de 64 ans, piste mise sur la table.
Et ce qu'on lit aussi ce matin dans Les Échos, c'est cette déclaration de Xavier Bertrand. Avec Macron, la guerre est déclarée depuis un moment.
Les deux hommes vont d'ailleurs se retrouver ce matin à Douai, dans le Nord, pour le lancement d'un projet d'usine de batteries pour voitures électriques. Le sujet est économique, industriel, 1000 emplois créés d'ici 3 ans. Une aubaine politique aussi au lendemain de la victoire du président sortant des Hauts-de-France. Reportage de Lionel Gougelot.
Devant ses supporters, Xavier Bertrand donne le ton de ce qui sera son discours de candidat. Sécurité, valeur travail, comme en son temps Nicolas Sarkozy, sans pour autant renier son identité de gaulliste social.
Ma priorité, ce sont les classes moyennes et les catégories populaires.
Un candidat proche du terrain qui séduit René, un électeur de Saint-Quentin.
Ce n'est pas un élarque, ce n'est pas un gars qui a été dans les grandes écoles, mais c'est mieux qu'eux. Il travaille pour le peuple.
Xavier Bertrand, dans la course à l'Élysée, beaucoup pensent ici qu'il devient le leader naturel de la droite.
Il est capable, je crois, de fédérer toute une droite républicaine aujourd'hui.
Pour imposer désormais un match à 3 avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Puis de toute façon, Madame Le Pen, elle ne doit pas être ravie aujourd'hui, parce que les résultats sont vraiment très très mauvais pour elle partout.
Alors ce matin, à Douai, on guettera le face-à-face Macron-Bertrand à l'occasion de l'annonce d'un site de production de batteries pour l'usine Renault. Christophe Coulon, colistier de Xavier Bertrand, s'en amuse à l'avance.
Le dispositif qui sera réservé à Xavier Bertrand sera sans doute de ne pas trop lui laisser d'espace, mais peu importe. S'il multiplie les déplacements, le chef de l'État dans les Hauts-de-France, ça donnera sans doute encore plus d'opportunités pour Xavier Bertrand de peut-être confronter un certain nombre de points de vue sur des sujets d'actualité.
Reste à savoir si cette victoire électorale de Xavier Bertrand se concrétisera dans les intentions de vote pour 2022. À Saint-Quentin, Lionel Gougelot, Europe 1.
Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
Chef adjointe du service politique d'Europe 1. Alors, Justement, les intentions de vote, qu'en est-il ?
Eh bien, un sondage le place aujourd'hui à 18%, encore loin d'être qualifiable pour le second tour. Mais disons que Xavier Bertrand se rapproche un peu du duo tête. Il le dit aux Échos, aujourd'hui, c'est un match à 3 pour 2022, Macron, Le Pen et lui. Xavier Bertrand a incontestablement marqué des points hier, sans cacher aux électeurs que la région devait être son tremplin. Et pour battre le fer tant qu'il est chaud, une interview aux 20h de TF1 cette semaine est dans les tuyaux.
Oui, car il risque de ne pas être seul en piste très longtemps.
Oui, un autre match à 3 se dessine, à droite, car Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, eux aussi, sont désormais libérés des régionales. Et leur envie de présidentielle est un secret de polichinelle. Tous les deux veulent une primaire. Laurent Wauquiez prévoit d'ailleurs de dire avant la coupure estivale qu'il faudra un vote. L'idée n'est clairement pas de laisser la priorité à Xavier Bertrand. Dans leur combat, ils pourraient trouver du renfort côté Bruno Retailleau. Le patron des sénateurs LR veut profiter du comité stratégique d'autocongratulation prévu à midi pour dire qu'il faut se mettre en ordre de bataille rapidement, histoire de ne pas laisser le duo Macron-Le Pen se réinstaller. Problème, Christian Jacob tient à son calendrier. Le candidat, c'est en novembre et pas avant.
Merci Aurélie Herbemont. À propos des élections d'hier, on retiendra plus globalement la reconduction de tous les sortants, 7 à droite, 5 à gauche, même s'ils gagnent en perdant des voix par rapport à 2015. Et puis du côté des départementales, deux résultats à noter ce matin. Claude Chirac est élu sur l'ancien canton de sa mère Bernadette. D'autre part, le Parti communiste n'est plus à la tête d'aucun département ayant perdu le Val-de-Marne.
8h07 sur Europe 1. On sait que c'est une question de semaine avant que le variant Delta du coronavirus devienne majoritaire en France.
Une mutation responsable d'une explosion des cas en Australie, en Afrique du Sud, mais aussi plus proche de nous, au Royaume-Uni, ainsi qu'au Portugal. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
À quelques jours du mois de juillet, on se demande si l'été peut nous aider à éviter une quatrième vague. On a le recul d'ailleurs sur l'année dernière.
Oui, les études ont montré que l'été dernier, la transmission a diminué d'environ 50% par rapport à l'hiver précédent. Cela s'explique à la fois par la montée des températures et par les comportements. On vit davantage à l'extérieur et avec les fenêtres ouvertes, ce qui réduit les risques de contamination. Mais cette année, avec la montée en puissance du variant Delta, le professeur Arnaud Fontanet, responsable de l'unité épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur, nous met en garde contre un excès d'optimisme.
Même si on s'attend à ce qu'il y ait une diminution de la transmission qui est liée à la condition estivale, ça ne suffira pas en soi par rapport à des virus qui sont encore plus transmissibles que ceux qu'on avait avant. Mais c'est vrai que la vaccination va aider, mais ne fait pas tout et ne considérons pas qu'on peut faire n'importe quoi de notre côté en termes de comportement individuel.
Attention donc au relâchement trop rapide des gestes barrières chez les non-vaccinés. Au sein d'une population vaccinée, c'est différent. Non seulement les risques d'hospitalisation diminuent, mais le risque d'être infecté et de transmettre le virus à son tour est aussi réduit d'au moins 50%, à condition d'avoir bien reçu les deux doses.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. À propos de l'été, on note au Canada ce qui est décrit comme un dôme de chaleur. On a enregistré jusqu'à 46 degrés 6 à Lytton en Colombie-Britannique. C'est un record absolu. Le record précédent était de 45 degrés. Et voici ce que dit le climatologue en chef du gouvernement canadien. Il fait plus chaud dans certaines parties du Canada qu'à Dubaï.
Cet été sera en tout cas celui des vacances en France pour bon nombre d'entre nous.
Oui, ce qui déclenche des besoins de recrutement très forts. Il faut des saisonniers pour accueillir la clientèle. 300 000 sont nécessaires. Mais pour eux se pose la question du logement sur des lieux de vacances où les prix ont bien sûr tendance à flamber. Caroline Baudry.
Son emploi de serveuse à Deauville, Marine, 24 ans, l'a trouvé très facilement, mais impossible de louer un petit appartement dans la ville. Tous sont destinés cet été aux touristes français.
La semaine, c'était 350, 400. Ça fait plus de 1002 pour le mois. C'est très très cher pour se loger. Donc je me suis repliée sur la chambre chez l'habitant.
Une solution pour ne pas renoncer au job d'été. Sans eux, l'économie des stations balnéaires est en danger, alerte Marie Lézé. À la mission locale Ouest Côte d'Armor en Bretagne, elle s'active pour convaincre des propriétaires.
On est vraiment en urgence parce qu'on a des employeurs qui cherchent désespérément du personnel. Puis ils se disent qu'ils vont devoir fermer ou faire moins de couverts. D'où l'appel en fait en local pour qu'on se sente tous aussi concernés par ce problème.
Appel entendu par Jean-Pierre, 71 ans. Il loue pour la première fois les deux chambres de sa grande maison sur la côte bretonne.
Je suis veuf. Et je n'occupe pas du tout l'étage. Je ne vois pas grand monde dans la journée, donc il y a une présence dans la maison et ça ne me gêne pas du tout.
Prix de la chambre, 200 euros par mois, sans caution à encaisser. Idéal pour des saisonniers dont les finances sont à sec après 7 mois de fermeture des cafés et restaurants.
Eux n'ont pas du tout la tête aux vacances ce matin. Les élèves de 3e, ils sont 860 000 qui passent ce qui est le premier examen de leur vie, le brevet. Français et maths aujourd'hui, histoire géo, enseignement moral et civique et sciences demain.
Et la spécialiste éducation d'Europe 1 est avec nous. Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Comme les terminales, les collégiens ont subi une année scolaire chamboulée par la pandémie.
Oui, car les collégiens ont eux aussi dû faire des cours à distance. Après le confinement d'avril, les 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie ont dû reprendre en demi-jauge pour 5 semaines. Au final, un peu plus de 2 mois perturbés dans ces zones, ce qui a beaucoup désorienté les élèves. Et pour les profs, ça a forcément ralenti l'avancement du programme. En histoire géo, c'est près de 15 heures perdues en tout sur la période. Pour Valentine, en 3e à Sèvres, c'est cette matière qui lui fait le plus peur, car elle n'a pas pu tout voir en classe.
Oui, en histoire géo, on est très en retard. Il y a des chapitres qu'on n'a pas eu le temps de voir, ou même qu'on a vu très 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 vite. Forcément, on est stressé parce que l'année, on sait qu'elle a été différente. On sait qu'on a moins eu d'aide pour comprendre que les autres années. Mais je pense aussi que les personnes qui vont faire les sujets de brevet, ils savent que cette année a été compliquée et du coup, ils vont pas faire des choses trop dures.
Voilà l'espoir de Valentine, comme de nombreux autres élèves. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, il demande de la bienveillance aux examinateurs pour ce brevet. Et de toute façon, la note de contrôle continu compte tout de même pour 50% dans la note finale.
Virginie Riva. Cette fois, il faudra une victoire. Premier match à élimination directe pour les Bleus à l'Euro de football.
France-Suisse à 21h, un 8e de finale qui se déroule à Bucarest. Mais c'est à Genève que nous avions envie de passer une tête ce matin, car entre les rouges et blancs et les bleus blancs rouges, la concurrence se joue aussi à la frontière. Reportage de Simon Rubin.
Dans la région de Genève, le match de ce soir a réveillé la sempiternelle rivalité frontalière. Ici, au bord du lac, les supporters français viennent en Suisse le week-end et affichent fièrement leur maillot. Laurie et Armélien habitent Annemasse et ils attendent ce match sûr d'une nouvelle victoire des Bleus.
Il y a une bonne compétition dans tous les cas entre la France et la Suisse, au niveau des salaires. Donc là, au niveau de foot, vu qu'ils nous charrient puisqu'ils ont un meilleur confort de vie que nous, là en France, on va les allumer là, avec le foot. On est meilleurs qu'eux. Si à la première mi-temps, on commence à tabasser les Suisses, on viendra les charrier sur leur propre terrain.
De toute façon, c'est toujours dans la rigolade, hein. Toujours bienveillance, tout ça. Ouais.
Et il faut dire que cela fait 29 ans que la Suisse n'a plus battu la France, mais cette fois, c'est la bonne, assure Hermann Genevois. Enfin, les Suisses vont faire taire les Français un peu trop arrogants.
Ils aiment bien narguer les petits Suisses, mais les petits Suisses, en espérant qu'ils ont bien mangé du bon fromage. Et voilà, j'espère une belle reprise de Shaqiri et hop Suisse quoi.
Une rivalité frontalière bon enfant. Ce soir, les terrasses de Genève seront noires de monde avec, devant les écrans, autant de supporters des Bleus que de fans de la Nati, l'équipe suisse. Genève, Simon Rubin, Europe 1.
Et ne manquez pas cette soirée spéciale foot dès 20h sur Europe 1 avec Rousseau et nos consultants, le match en intégralité à 21h. Et puis le Tour de France, troisième étape cet après-midi, Lorient-Pontivy, 182 km pour une arrivée sans doute au sprint avec Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Poulidor, en maillot jaune.
C'est ça aussi le parfum de l'été. Vous parliez de l'été, des chaleurs, etc. Mais il y a aussi cette actualité sportive, le journal du Tour après le journal de 7h, le journal de l'Euro à 8h30 tout à l'heure, la soirée spéciale tout à l'heure. 8h13, merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
La politique aussi, lendemain de scrutin, analyse et perspective avec Dominique Régnier, prof à Sciences Po et patron de la Fondation pour l'innovation politique. Il répond aux questions de Sonia Mabrouk dans un instant, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique.
Exactement, pour un peu de recul et d'analyse ce matin, bienvenue à vous et bonjour Dominique Régnier.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Est-ce qu'on a vraiment pris la mesure de la lame de fond que représente l'abstention vertigineuse dans ces élections locales?
Moi je ne trouve pas. Une fois que l'on a reconnu, salué la victoire des sortants, de droite comme de gauche, même s'il y a plus de force électorale à droite qu'à gauche, on avait le sentiment, moi c'est le sentiment que j'avais hier soir en assistant à cette soirée électorale, d'un théâtre d'ombre. Il y a une abstention extraordinaire pour la deuxième fois consécutive, malgré tout ce qui a été dit pendant la semaine. Donc on sait maintenant que tout ce qui a été dit, on pouvait s'en douter, mais on le vérifie maintenant, n'a pas d'importance sur le comportement des électeurs qui sont restés chez eux. Songeons que toutes les classes d'âge sont majoritairement abstentionnistes, sauf les plus de 70 ans. Toutes les catégories sociales sont abstentionnistes, majoritairement, toutes, hein, même les cadres, etc., sauf les retraités. Toutes les catégories de diplômes sont abstentionnistes, très, très majoritairement. Il s'est passé à nouveau un événement considérable, et à nouveau, cet événement est enjambé, contourné, ignoré, et on démarre aussitôt. Je comprends ça, c'est la politique, hein, il n'y a pas de scandale là-dedans, c'est la politique. Les partis d'opposition n'ont pas tout à fait disparu, s'en sont même bien sortis au niveau régional, pour les LR et assimilés comme pour le PS, ici ou là, avec des résultats différents, mais globalement, ils ont bien résisté. C'est une défaite pour La République En Marche, c'est une défaite pour le RN, mais il me semble que le point clé, c'est cela.
Vous avez raison, Dominique Régnier, à nous rappeler quelque part à la raison. Hein, nous-mêmes, évidemment, commentateurs, intervieweurs, responsables politiques, vous dites que le fait majeur, c'est cette abstention. Et j'entends vos mots quand même, théâtre d'ombre, c'est très fort. Vous aviez l'impression de regarder un théâtre d'ombre hier soir.
Oui, parce que c'est à la fois ça continue et ça recommence, c'est-à-dire que on enclenche, mais encore une fois, je le comprends, mais ça ne va pas. On enclenche la marche vers la présidentielle. On se comporte comme si on avait triomphé dans un scrutin où personne n'a triomphé. Il faut bien voir que aucun élu, à part Carole Delga en Occitanie, ne progresse en nombre de voix par rapport à 2015, à son propre score en 2015. Regardez ce qui s'est passé en PACA. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. Renaud Muselier est élu, Thierry Mariani est battu. Mais à quelles conditions obtient-on un tel résultat? Ce qu'on a appelé le front républicain. Donc, il faut que toutes les forces politiques se retirent. Il va y avoir à nouveau une absence de la gauche au Conseil régional de PACA jusqu'en 2026 ou 2027, je ne sais plus quel est le terme de ce nouveau mandat. Ça veut dire que depuis 2015, la gauche est absente pour éviter l'élection du Front National, aujourd'hui du Rassemblement National. On va donc avoir une assemblée régionale avec une majorité autour de Renaud Muselier et une opposition RN. Aucune vie démocratique.
Vous dites à quel prix, Renaud Muselier a obtenu ce score.
Et, sachant que, et ça n'est pas faire insulte que de le souligner, on peut comprendre cela, Renaud Muselier triomphe avec 17% des électeurs inscrits dans cette région. Et donc, si on ne prend pas la mesure de ce qui se passe là, et du fait qu'une très grande majorité des électeurs tourne le dos au scrutin, il y aura nécessairement une conséquence sur 2022.
Alors, essayons d'en prendre la mesure. Vous dites tourner le dos au scrutin et vous analysez cela, Dominique Régnier, par un phénomène de désinstitutionnalisation que vous décrivez, qui consiste en fait à contourner les urnes pour préférer d'autres voies plus marginales. Un phénomène en quelque sorte de zadisation, finalement, de la vie politique. En quoi cela consiste-t-il?
Alors, c'est un... Au fond, c'est un déplacement. Nous avons des institutions qui sont censées et chargées de réguler nos désaccords, nos discussions, nos conflits. Au cœur de ces institutions, il y a le suffrage universel. C'est comme cela que nous les réglons de manière pacifique, nos disputes. C'est comme cela que nous sommes constructifs, même dans le désaccord. Mais depuis pas mal d'années maintenant, cela se déplace, on sort de là. Alors, c'est pas la majorité, c'est ça le problème. Ce sont des minorités très organisées, actives, qui sont sûres de leur cause, bien sûr, mais qui vont faire une décision quand il n'y a pas eu d'élection.
Un exemple.
Ou bien empêcher une décision alors qu'il y a eu une élection.
Vous donnez un exemple, Dominique Régnier. Par exemple, vous dites l'idéologie écologiste qui n'a pas besoin finalement d'élection pour déployer son programme. Et parfois, ce sont des minorités qui agissent au nom du plus grand nombre.
Oui, alors sur l'écologisme là, c'est quand même paradoxal, parce que si on regarde le phénomène des éoliennes qui quand même suscite partout beaucoup d'opposition, pour un parti Europe Écologie Les Verts qui est très favorable aux éoliennes et qui nous dit être très favorable à la démocratie participative, aux consultations, il n'y en a pas justement dans ce domaine-là. Autre exemple, on a fait un référendum pour Notre-Dame-des-Landes, la population s'est prononcée en faveur de l'aéroport, il n'y a pas eu d'aéroport parce que les zadistes occupaient, pour résumer l'histoire, occuper le lieu. Alors, c'est tout à fait emblématique. On pourrait dire d'ailleurs la même chose du référendum de 2005 sur l'Europe. Ça remonte à loin, bien sûr, tout cela, et peut-être même avant, je crois que ça remonte avant. Et conséquemment, la majorité de nos concitoyens identifie malheureusement aujourd'hui que voter n'a pas l'utilité qui était promise. Et ce n'est pas cette majorité qui se met à zadiser le pays. C'est une majorité qui se retire du jeu. Et quand elle vient dans le jeu, je crois, moi en tout cas, à travers une forme tout à fait inédite, c'est les Gilets jaunes. Elle ne vient pas pour se présenter aux élections, elle ne vient pas pour voter, elle vient pour bloquer et pour contraindre les pouvoirs publics à écouter et à répondre
à quelque
chose.
Mais c'est inquiétant, c'est-à-dire si ce sont des voix qui contournent aujourd'hui les urnes, ça peut aller vers plus de violence aussi pour imposer ses vues et sa vision de la société.
Bah, si nous devions rentrer dans une société démocratique abstentionniste comme celle que nous vivons depuis quelque temps, parce que ce n'est pas non plus la première fois, il y a eu les municipales, il y a eu le deuxième tour de la présidentielle, et on pourrait encore prolonger cette histoire, ça signifie que nos désaccords, nos disputes, ne pourront plus se régler par ces institutions. C'est là le phénomène de la désinstitutionnalisation. Il y aura donc d'autres modalités. Le pur rapport de force, on le voit déjà dans cette désinstitutionnalisation médiatique que sont les réseaux sociaux, où les rapports sont extrêmement violents, virulents, agressifs. Et cette manière d'en découdre, au fond, peut prendre le pas sur la manière qui a été jusqu'ici, au fil des temps et de longues décennies, élaborée, et qui était à la fin de finir par un comptage des voix qui faisait autorité et autour duquel tout le monde se rangeait.
Dominique Régnier, c'était important d'insister évidemment sur ce phénomène d'abstention, d'y consacrer cette partie de l'entretien. Vous dites que c'est un phénomène de désinstitutionnalisation, mais quels effets maintenant aura cette lame de fond en vue de 2022, qui reste quand même en France l'élection qui fait quand même déplacer et voter les Français? Ce sont près de 30 millions de personnes d'abstentionnistes qui pourraient aller vers cette élection.
Absolument. Au deuxième tour de 2017, il y a eu 12,5 millions d'abstentionnistes. Nous en avons eu dimanche 30 millions à chaque fois. Nous n'en aurons pas 30 millions à la présidentielle. Et donc, il va y avoir, je dirais, entre 15 et 20 millions d'électeurs, je dirais plutôt 20 millions, qui se sont abstenus au cours de ces deux dimanches et qui vont aller voter. C'est une masse considérable qui est de nature à tout changer selon son orientation politique. Et ce sont par définition, par construction, ce sont des Français qui sont plutôt, par leur nombre, membres des catégories populaires et des catégories moyennes. Et donc ça va peser sur le scrutin de manière déterminante. C'est ça qui va déterminer, je crois, en tout cas moi, le scrutin en 2022. C'est une France qui est plus en difficulté. Et donc elle viendra dire sans doute son insatisfaction plutôt que son contentement.
En faveur de qui? Certains disent déjà que le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen en a pris un sacré coup à ces élections régionales. Et je le rappelle aussi, on en parle peu, mais il faut insister sur les départementales. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, Dominique Régnier, malgré tout ce qui a été dit sur ce duel, que Marine Le Pen pourrait ne pas être au second tour de la présidentielle dès aujourd'hui?
Elle peut ne pas être au second tour, ça ne fait aucun doute. Parce que c'est, au fond, qu'est-ce que nous avons comme indication? Nous avons le fait qu'elle était au second tour en 2017, que depuis, ni les LR ni le PS n'ont réussi jusqu'à aujourd'hui à construire une offre avec un programme, une figure qui représente tout cela. Et donc ça manque encore aujourd'hui. Ça finira par ne plus manquer, j'imagine. Est-ce que ce sera assez tôt? Nous sommes à 10 mois de la présidentielle. Est-ce que ce sera assez tôt pour empêcher Marine Le Pen d'être au second tour? C'est difficile de le dire aujourd'hui. On aurait tort d'interpréter les résultats d'hier comme ceux de la semaine dernière, comme s'il n'y avait pas eu les deux tiers des électeurs absents.
On entend votre avertissement, il est important ce matin, Dominique Régnier. Il y a aussi les victoires, malgré tout, même si il y a ce niveau d'abstention de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est le retour des clivages et de la droite aussi, dont certains politiques et commentateurs avaient annoncé le déclin et la fin déjà?
En fait, la France se droitise électoralement. On le voit à travers des scrutins comme celui-là, même s'il faut garder à l'esprit l'abstention. Et puis à travers les préoccupations pour la sécurité, préoccupations pour l'immigration, la question des valeurs aussi. Donc il y a ce phénomène-là qui est favorable. On sait que l'élection de 2022 est très favorable à la droite. Ça fait un moment que l'on dit cela. Maintenant, c'est une chose que d'avoir une France de droite, autre chose que d'avoir un parti de droite capable de répondre à cette demande.
Attends, et ça, vous c'est dites pas une fait. France de droite, c'est-à-dire une poussée, vous le constatez, des valeurs et des positionnements de droite. C'est une réalité française, peut-être aussi européenne.
C'est aussi une réalité européenne. Il y a une droitisation de l'Europe. Et il ne faut pas chercher dans les sondages seulement cette droitisation. Il faut surtout la regarder dans les scrutins. En Europe, cela se voit aussi. Et donc, on va avoir ce processus qui va se déployer jusqu'en 2022. Il n'est pas certain cependant que la droite en tire profit. C'est à elle d'arbitrer cette compétition interne qui a commencé. C'est à elle d'offrir un programme cohérent et qui répond à ses attentes. C'est à elle de choisir un champion.
Il y a aussi le Rassemblement National, parti populiste et populaire, qui espérait quelques régions, qui se retrouve tout nu. À 10 mois de la présidentielle, la remise en cause va être sévère, selon vous?
C'est une grande difficulté pour Marine Le Pen, à part à Hénin Beaumont, où elle s'en sort bien, mais c'est très peu, c'est une grande difficulté pour elle. Et il existe, il faut le rappeler, au sein de ceux qui s'intéressent au RN, qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen, qui ont voté pour elle, il existe une lassitude. Ça fait un moment qu'on la mesure, il existe une lassitude. Le souhait de voir une autre personne la remplacer, ça n'est pas quelque chose de majoritaire, mais c'est quelque chose de significatif. Je pense que ce scrutin va renforcer cette idée qu'il faut peut-être songer à une autre figure pour représenter le Rassemblement national. D'ici 2022, c'est trop tard. Hein, donc il faudra qu'elle arrive à composer avec cela si elle veut espérer être au second tour.
Et vous nous rappelez surtout le plus important ce matin, Dominique Régnier, évidemment, cette abstention vertigineuse. Et le phénomène de désinstitutionnalisation est-il réversible ou pas? En tous les cas, c'est une alerte de votre part. C'est passionnant de vous écouter, j'espère aussi pour nos auditeurs. Merci à vous.
Merci Sonia.
Je vous souhaite une bonne journée et à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un tout petit instant, nous retrouvons Marion Calais pour l'info, Laurent Cabrol, la météo et le journal de l'Euro. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h30 sur Europe 1, le rappel de l'info avec Marion Calais.
Trois régions visées, aucune emportée. L'échec du Rassemblement national aux élections régionales. Hier, le parti de Marine Le Pen battu, notamment en PACA, où Thierry Mariani était donné au coude à coude avec le président sortant Renaud Muselier, qui l'emporte finalement avec 15 points d'avance. Victorieux aussi Valérie Pécresse en Ile-de-France, Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes ou Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, le déjà candidat à la présidentielle, qui apparaîtra aujourd'hui aux côtés d'Emmanuel Macron, déplacement du chef de l'État pour annoncer l'implantation d'une giga-usine de batteries pour voitures électriques à Douai, dans le Nord. Le président qui va aussi accueillir ce soir une centaine de grands patrons à Versailles pour le sommet Choose France, lui dont le parti a été mis en difficulté dans les urnes hier. La gauche, elle, conserve 5 régions et l'abstention se maintient au plus haut, 66% encore hier. Français et maths, aujourd'hui, les quelques 860 000 élèves de 3e passent les premières épreuves du brevet. Pas d'aménagement hein, malgré l'année compliquée par le Covid, mais un appel à la bienveillance dans la notation. Le scénario se répète, l'équipe de France de basket battue hier soir en finale de l'Euro par la Serbie. 64-53, 5e défaite consécutive à ce niveau pour les basketteuses françaises. Et puis une étape pour les sprinteurs ce lundi avec le petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel en maillot jaune. Le Tour de France toujours en Bretagne pour cette 3e étape. 182 km au total entre Lorient et Pontivy.
Merci Marion Calais. 8h32 sur Europe 1. Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Eh bien, c'est une météo orageuse. Je ne change rien à ce que je dis depuis plusieurs semaines. Météo orageuse avec des orages qui sont parfois très violents. J'ai parlé tout à l'heure d'Issoire dans le Puy-de-Dôme qui était avec un orage de grêle terrible. Et puis nous avons aujourd'hui, nous en aurons aussi certainement de ces violences. Il faut vraiment vigilant hein, sur l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône. Attention en région lyonnaise aussi. Donc, ce sont des orages qui éclateront surtout dans l'après-midi, alors que ce matin, c'est plutôt des pluies assez réservées, j'allais dire, sur le littoral atlantique, sur la Loire atlantique, pardon, sur la Vendée, sur la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, l'Auvergne. Enfin bref, mais chaque fois qu'il y a des petites pluies, elles se transforment en orages dans l'après-midi. S'il n'y a rien, eh ben, il peut y avoir quelques ondées, quelques averses musclées, comme ce fut le cas et ce sera le cas encore dans l'après-midi sur la région parisienne, le Béarn. Les températures se situent entre 20 et 29 degrés, donc elles sont relativement douces sur les régions du sud, même on peut dire chaudes, hein, entre 26 et 30, et puis relativement douces sur les régions de la moitié nord, entre 18 et 21. Puis pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la suite, je n'ose vous le dire parce qu'on n'est pas sûr de notre coup, et bon, ben voilà, quels que soient les modèles, on est là en train de se dire, les orages vont continuer, alors tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt dans l'est, tantôt dans l'ouest, mais enfin ils seront là d'une manière assez permanente tout au long de la semaine. Ça va vraiment s'améliorer vendredi. Et puis samedi, dimanche, là, c'est la grande inconnue. Ou alors on repart sous les orages, ou on repart vers un temps beaucoup plus serein et beaucoup plus intéressant. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Il est 8h34 sur Europe 1. Le journal de l'Euro avec Jean-François Pérez. Bonjour Jean-François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Chef du service des sports d'Europe 1, envoyé spécial d'Europe 1 à Bucarest. Les Bleus qui se réveillent dans leur hôtel du centre-ville de la capitale roumaine au matin d'un match à quitte ou double face à la Suisse.
Eh oui, terminé la phase de poule où on pouvait espérer rattraper un mauvais résultat. Ce soir, sur les coups de 23h ou de minuit, s'ils sont poussés en prolongation ou au tir au but, eh bien les Français connaîtront leur destination. Soit le musée de l'Ermitage et Saint-Pétersbourg pour un quart de finale, soit celui du Louvre et Paris pour le début des vacances. Alors le conseil de Didier Deschamps pour éviter cette terrible désillusion, chasser comme la peste tout sentiment de supériorité.
On a toujours tendance à penser que quand on rencontre des adversaires, ils ressemblent à rien. Mais bon, les Hongrois, ils ont tenu jusqu'à la 83e face aux Portugais, et ils ont failli éliminer l'Allemagne. Donc, sur le papier, c'est une chose. Évidemment qu'on a une force à tous les niveaux qui se dégage de cette équipe, mais il faudra être à notre maximum pour continuer notre route.
Voilà, et sachez qu'on s'oriente vers un changement tactique ce soir. Si jamais Lucas Hernandez, touché au genou, n'était pas à 100%, Didier Deschamps pourrait aligner une défense à 3 avec le retour de Clément Lenglet aux côtés de Varane et Kimpembe.
Les Bleus qui pourront compter, dites-nous tout, qui pourront compter sur un attaquant libéré.
Oui, il suffisait de voir son sourire après son deuxième but face au Portugal. 6 ans que Karim Benzema n'avait plus marqué en équipe de France. Alors quand on connaît l'importance de la confiance chez un attaquant, eh bien, on se dit que le déclic est arrivé au meilleur moment. Et c'est également l'avis du capitaine Hugo Lloris, pas surpris par la réussite du buteur du Real Madrid.
Depuis qu'il a été appelé, il est prêt à faire ce qu'il faut pour l'équipe, mais également sur le plan personnel, d'amener toute son expérience, son vécu et son talent afin d'aider l'équipe de France. Après, un attaquant, bien évidemment, est à la recherche du but. Ça amène de la confiance, ça valide également les performances réalisées avant. On connaît déjà son influence au sein du jeu de l'équipe et on n'a pas attendu qu'il marque ses deux buts pour l'avoir.
Benzema ce soir aux côtés d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé, très populaire hein, Mbappé ici à Bucarest, il y a plein de maillots à son nom. Il y aura ce soir 25 000 spectateurs dans la magnifique arène nationale pour ce 39e match entre les deux pays, dont environ 2000 Français et 1000 Suisses.
Et puis un mot de l'arbitre de ce France-Suisse, un arbitre argentin.
Et oui, c'est le seul non-européen de la compétition. Il s'appelle Fernando Rapalini. Alors, il est vendeur et installateur de piscines dans le civil. Autrement dit, un œil d'expert pour déceler des éventuels plongeons dans les surfaces de réparation.
Bien vu. France-Suisse, donc, c'est un match à suivre, à vivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Football Club autour de Lionel Rosso. On va terminer avec les résultats et l'autre match du jour.
Oui, c'est un match très important parce qu'il va désigner l'éventuel adversaire des Bleus en quart de finale. C'est Espagne-Croatie. Rendez-vous à 18h à Copenhague. Et puis hier soir, une sensation et une surprise. La Belgique a sorti le tenant du titre, le Portugal, au terme d'un match très accroché, 1-0. Et puis les Pays-Bas ont été sortis par la République tchèque, 2-0.
Merci Jean-François Pérez et bonne journée à vous à Bucarest. À ce soir, bien sûr, merci. Sur l'antenne d'Europe 1 avec Cyril Delamorinerie au commentaire de ce match France-Suisse, 8e de finale de l'Euro. Il est 8h37.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Notre santé, comme tous les matins, avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors attention, à une semaine des vacances d'été, quelques conseils vous nous suggérez ce matin de ne pas oublier un objet indispensable, la crème solaire.
Eh oui, elle est souvent prise à la dernière minute au supermarché ou traînant au fond de l'armoire à pharmacie.
Quand c'est pas sur l'air d'autoroute.
Exactement, mais croyez-moi que la crème solaire est beaucoup plus importante que votre chargeur de smartphone ou même que votre maillot de bain. Alors, même si c'est agréable de
pour le maillot de bain.
Oui, non, mais je vais pas me baigner tout nu quand même, je suis d'accord. Mais même si c'est agréable de faire bronzette à la plage, sachez que notre peau n'aime pas le soleil et en particulier les UV qui vont dans un premier temps accélérer le vieillissement cutané, mais aussi favoriser les cancers de la peau. La prévention débute dès l'enfance, car le principal facteur de risque de cancer cutané, c'est la surexposition au soleil sans protection avant l'âge de 15 ans. Et je ne vous donnerai qu'un seul chiffre, 5 coups de soleil sérieux avant l'âge adulte, eh bien c'est 80% de risque en plus de développer un mélanome.
Alors quelles sont les règles pour se protéger correctement du soleil ?
Alors avant de parler de crème, Mathieu, il faut respecter quelques règles simples comme ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre midi et 15-16 heures, mettre un t-shirt aux enfants à la plage ainsi qu'une casquette sans oublier les lunettes de soleil car les UV peuvent aussi endommager les yeux et en particulier ceux des enfants. Pour le reste, eh bien, il suffit d'acheter une crème solaire avec un bon indice de protection. N'oubliez pas aussi que vous pouvez prendre un coup de soleil même à l'ombre sous le parasol car les ultraviolets proviennent du soleil dans un premier temps, mais ces rayons vont aussi rebondir sur quasiment toutes les surfaces. Il faut donc, même à l'ombre, mettre de la crème solaire. Enfin, ce n'est pas parce que vous ne prenez jamais de coups de soleil, Mathieu, qu'il ne faut pas vous protéger.
Quel type de crème solaire acheter alors ?
Alors, je vous recommande dans un premier temps d'acheter une crème solaire avec un bon indice de protection d'au moins 30. D'ailleurs, très peu comprennent ce que veut réellement dire ces indices de protection. Pour faire très simple, si en temps normal, vous prenez un coup de soleil en 10 minutes, eh bien un indice de protection 30 vous protégera 30 fois 10, c'est-à-dire 300 minutes. C'est comme ça qu'on calcule la protection. Alors évidemment, c'est théorique et c'est à condition de mettre assez de crème solaire car il faut en moyenne mettre l'équivalent de 6 cuillères à café de crème sur le corps d'un adulte de taille moyenne. Sauf qu'en pratique, eh bien, les Français appliquent le quart de cette dose recommandée. Donc Mathieu, vous savez ce qu'il vous reste à faire d'ici quelques jours.
Acheter de la crème solaire.
Et en mettre suffisamment.
Et en mettre et tartiner. Hein. Ne pas hésiter.
Exactement.
Même à l'ombre, surtout. Là, je retiens. Même à l'ombre, pardon. Celle-là, autant il y a beaucoup de choses qu'on peut répéter de temps en temps, mais je ne savais pas que même à l'ombre, les rayons UV pouvaient rebondir et nous toucher. Merci Jimmy Mohamed. Le médecin d'Europe 1 à tout à l'heure entre 15h et 16h avec Mélanie Gomez. C'est sans rendez-vous.
Et oui, et si vous avez des enfants et que vous souhaitez retrouver la folie des soirées en amoureux, écoutez-nous de 15h à 16h pour la dernière semaine de la saison.
A tout à l'heure, Jimmy Mohamed. 8h40 sur Europe 1, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, vous nous parlez ce matin de l'essor des escape games au grand air. C'est quoi le concept ?
Eh bien, c'est le même concept, mais dehors. L'idée est de répondre à la fois aux contraintes de la crise sanitaire et du besoin de reconnexion à la nature qu'éprouve de plus en plus la population. Les offres se multiplient dans tous les départements français avec ces escape games outdoor. Vous l'avez compris, il n'y a pas de salle, mais tous les codes restent les mêmes. Des indices et des énigmes à résoudre pour réussir à s'échapper.
Mais s'échapper de quoi, du coup ?
Alors, d'une forêt par exemple, l'escape game Forest à 1h de Paris est assez représentatif. Il propose aux participants une immersion totale avec comme seul lien avec l'extérieur de la forêt un talkie-walkie avec au bout un master game qui est là pour vous aider en cas de besoin. C'est un escape game qui dure 20 heures, tout de même 20 heures, avec une nuit dans un campement inclus. Une expérience 100% nature, un peu moins longue de quelques heures seulement, mais le principe reste identique dans la forêt vosgienne. Cette fois avec un escape game nommé « À l'origine du futur » où vous devez faire un jeu de piste pour vous en sortir tout en maîtrisant la carte et la boussole. Il y a aussi Mountain Games qui crée et organise des jeux d'évasion grandeur nature en montagne autour de scénarios à thème mêlant jeux d'énigmes, outdoor et activités physiques et orientation bien sûr.
L'embarras du choix quand je vous écoute Fanny, ces nouveaux escape games que les offices de tourisme déclinent en jeux à très très grande échelle.
Des escape games XXL. C'est le cas en Bretagne qui lance cette année le premier escape game à l'échelle d'une région entière et cela gratuitement, intitulé le Mystère d'Abgral. Ce jeu propose une dizaine de parcours dont chacun est l'une des clés d'un puzzle géant. Une offre touristique qui valorise les facettes moins connues des territoires et qui nous invite encore une fois cette année à voyager local.
Merci Fanny Agostini. Notre planète et nos escape games en forêt ou à la montagne désormais. Tous les matins sur Europe 1, Fanny Agostini, merci. 8h42, dans un instant, la revue de presse que Nicolas Canteloup arrive et Julie est en train de s'installer. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu.
Oui. Bonjour Julie, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Ça y est, c'est la fin du suspense, vous savez, qui a passionné tous les Français, disons-le, les régionales, avec des résultats fous. Valérie Pécresse, sachez-le, remplace Valérie Pécresse. Xavier Bertrand remplace. Laurent Wauquiez remplace Laurent Wauquiez. Oui, bon. Et finalement, on comprend pourquoi ça n'a pas passionné grand monde cette élection. Allez, les titres. Je vous sais quoi, je vais vous parler des régionales. Mais après, j'arrête pendant 6 ans. Voilà. L'info du jour, ce sont les élections régionales. Des régionales où 2 Français sur 3, sachez-le, ne sont pas allés voter. Le troisième a voté parce que forcément, il était candidat sur une des listes. Allez, l'autre info, c'est Emmanuel Macron qui reçoit ce soir des grands patrons à Versailles.
Ah oui, pareil.
Et c'est vrai qu'il a raison, Emmanuel Macron. Quand on vient de se prendre un gros râteau, il ne faut pas se laisser aller. Il faut tout de suite s'entourer de ses amis les plus proches. Rien de mieux pour se consoler que de trinquer avec des amis blindés. C'est vrai que c'est... Au-delà de Nicolas Barré et Nicolas Bétou, c'est mon conseil économique. Pour passer les bonnes vacances, ayez des amis blindés. Allez, à vous, Julie.
Merci du conseil, Mathieu. Ça y est, on a donc ce matin les résultats complets du second tour des régionales. Les mauvais résultats se confirment pour le parti présidentiel. Bonjour Emmanuel Macron.
C'est bon ?
Oui.
Ça y est, c'est fini les régionales, on peut passer à autre chose, hein, au vrai rendez-vous républicain, disons-le, qui intéresse les Français.
Mais c'est quoi, c'est quoi? Mais c'est ma réélection. Ah. N'ayez pas les yeux écarquillés l'année prochaine, parce que moi, sachez-le, je vais super bien. Je suis au top. Hein, c'est juste mon parti qui est super nul, voilà. Et quelques-uns de mes ministres aussi. C'est, comment vous dire? Je vais prendre une métaphore footballistique puisqu'on est en plein dedans. C'est quand même Mbappé au PSG. Lui est très bon. C'est l'équipe autour qui est nulle.
Alors, on vous a vu voter chez vous au Touquet, hein, hier.
Oui. Et on est entre nous, je vous avoue que j'ai failli ne pas y aller.
Ah bon?
Oh bah écoutez, je suis tellement en symbiose avec les Français, avec mon peuple, qu'il n'en avait rien à secouer, que j'ai failli pas y aller moi non plus. En plus, j'étais obligé d'y aller pour voter Xavier Bertrand, vous imaginez la belle affaire. Puis en fait, c'est Brigitte qui m'a convaincu, elle m'a dit « Allez doudou, c'est sur la route pour acheter le pain, on peut y aller, ça va nous prendre 5 minutes. »
Oh bah vous avez bien fait.
Il
n'y
avait pas la queue. Ouais.
Alors après cet échec, on parle de remaniement, qu'en est-il?
Oui, tout à fait, car face à cette bérésina, ce séisme politique, ce cataclysme, il fallait que je fasse un geste fort.
Ah, pourtant, on murmure que tout le monde devrait rester en poste, sauf peut-être le secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski.
Voilà, vous
c'est
aussi.
C'est bien si on le connaît.
À vos souhaits.
Bérangère Abad, à
ça, c'est
la
plus
biodiversité, et Nathalie Elimas, à l'éducation prioritaire.
Oui, voilà. Et je le dis aux Français, j'ai entendu, mes chers compatriotes, votre ras-le-bol, votre appel. Vous n'en pouvez plus de Nathalie Elimas. Eh bien, je l'enlève. Française, Français, je comprends votre colère, vos doutes envers la classe politique et cette peur pour l'avenir de vos enfants. C'est pourquoi je vous ai compris. Je vire Bérangère Abad puisque c'était votre obsession. Voilà, je crois que j'ai bien réagi à l'attente des Français. Voilà, on peut passer à autre chose maintenant.
On a quand même 65% d'abstention. Ça veut dire clairement que les Français ne croient pas en la politique, ne croient plus en la politique.
Ouais. Eh bien, très bien, très bien. Écoutez, je ne me déroberai pas. Je le note. Je note que les Français ne croient plus en la démocratie. J'en tire toutes les conséquences en virant Ghislaine Charpentier. Voilà.
Et vous êtes sûr que ça va suffire?
Pour sauver la démocratie, non. Oui. Mais pour sauver Monderche en 2022, oui. Non mais écoutez, soyons réalistes. Je rappelle qu'il faut juste que je batte le gros Bertrand. Ça devrait aller pour 2022.
Bon, bah, bonne chance. Hein. Merci Monsieur le Président. Justement, on va revenir sur la large victoire de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Bonjour Monsieur Bertrand.
Oui, Madame Julie, vous avez raison. Oui. Non, Monsieur Cabrol, l'ascenseur n'est pas en panne. Je ne suis pas monté par l'escalier. Je parle toujours comme ça. Je vous le dis, pour faire le gars concerné, le gars dedans, le gars impliqué. Oui, je vous le dis, de façon essoufflée, mais de façon nette et solennelle. C'est une très large victoire. Non, ne dites pas cela. C'est un triomphe, que dis-je? C'est un plébiscite. Oui, c'est une Bertrandmania. Je suis, sachez-le, le Justin Bieber des Hauts-de-France. Le Patrick Bruel des Ch'tis. Oui, madame. Oui, monsieur Béliard. Oui, monsieur Cabrol. Moi seul, j'ai arrêté. Oui, le Front National.
Xavier Bertrand, président. Xavier Bertrand, président.
Oh, tiens, Xavier Bertrand, président. Gérald Darmanin, bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Mais vous avez l'air drôlement heureux ce matin, dites donc.
Écoutez, effectivement, c'est une double joie. D'un côté, je fête la victoire de mon ami Xavier Bertrand. C'est une réelle fête. Et puis de l'autre, je suis ravi de la défaite d'Éric Dupond-Moretti. Et je le dis solennellement aussi, dans le cul Éric.
On revient à vous, Xavier Bertrand. Hein. On sait que vous avez des ambitions pour 2022.
J'ai pas repris mon souffle depuis hier, depuis cette folle soirée électorale. Oui, c'est exact. Et je voudrais remercier mes électeurs qui, en me reconduisant pour 6 ans, me permettent de me barrer dans 1 an. Car sachez-le, si je suis élu président, je vais enfin pouvoir quitter cette région où il pleut tout le temps, disons-le. Et où, sachez-le, les dentistes n'existent pas ou n'existent plus. Merci en tout cas de m'avoir gardé. Ça va me permettre de partir. Merci à tous.
Merci à vous, Xavier Bertrand. À bientôt. Allez, on va revenir sur les défaites du Rassemblement National, en particulier celle de Thierry Mariani en PACA. Jean-Marie Le Pen, bonjour.
Hey, bonjour.
Alors, Marine Le Pen avait pourtant tenté de gronder ses électeurs.
Gronder ses électeurs? Eh bien, dis donc, tu as bien fait de les enguirlander, tes électeurs, Marinette. Quelle autorité! Bravo, Marine.
Vous êtes déçu, hein, Jean-Marie Le Pen. Peut-être voulez-vous avoir un mot de soutien à votre fille, Marine?
Un mot de soutien? Mais avec plaisir. Espèce de nularde. Mariani, battu. Ton stripteaseur, Julien Oudoul, battu. Tu es battu partout, tu te présentes. Comment veux-tu remporter un pays quand tu es incapable de gagner une région?
Pardon, monsieur Blédard, je me suis peut-être légèrement emporté.
Oui, oui, bah on va vous laisser, allez. Bah justement, tiens, Marine Le Pen.
Je peux changer la bonnette.
Non, stop. Justement, elle est là, Marine Le Pen. Bonjour, on imagine que vous êtes déçu, vous, hein, ce matin.
Oui, bonjour.
Oula.
Déçu. Oui, déçu. Pourquoi déçu? Parce que personne n'a voté pour mes candidats. D'ailleurs, je note même pas toi, mon joli métis. Quelle déception après tout ce qu'on a vécu. Tu ne m'as même pas glissé ton petit bulletin. Je suis écœuré. Je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu. Il y a autant, pourtant, je ne sais pas, je cherche des explications. Pourtant, franchement, il n'y a pas eu de débat. Que je sache, j'ai pas pété les plombs comme on me l'a reproché.
Ah, faisant,
oui,
débat,
oui, oui, oh, ben oui, en faisant des grands gestes avec les bras en disant oh là là, ils sont là, partout, dans les maisons, dans les campagnes, oui. Oh là.
Vous avez eu hier soir une analyse assez étonnante de votre défaite. En gros, c'est à cause du système, hein, selon vous.
Mais écoutez, ouvrez les yeux. Vous savez pourquoi nous avons perdu?
Non.
Parce qu'on nous a empêchés, voilà, empêchés et de gagner. Et ça, c'est inadmissible.
Mais il faut la sortir du terrain, la Marine, sur le banc comme l'attaquant Ben Yedder. Marion Maréchal, reviens-nous vite.
Oh là là, on va vous laisser en famille, hein, tous les trois. Allez, merci.
Choses à régler, ouais.
La victoire de Xavier Bertrand le place en bonne position pour 2022, mais ce n'est pas du goût des ténors de la droite. Bonjour Laurent Wauquiez.
Oui. Bonjour madame. Non, je ne suis pas content. On ne va pas laisser l'agent d'assurance y aller tout seul. Il va falloir compter sur les ténors de la droite, je vous le dis.
Vous parlez de Valérie Pécresse ?
Non, je n'ai pas dit cantatrice, j'ai dit les ténors.
Ah, ténors, ah oui. Donc
les Français, non, mais les Français veulent un bonhomme. Un bonhomme, un vrai, un Auvergnat.
Ah, bon. Mais je croyais que vous aviez arrêté la politique nationale parce que la seule chose qui vous intéressait, c'était votre région. Vous l'avez dit,
oui,
ça. Oui, hein,
parce que je pensais qu'une pointure allait reprendre le parti. Mais si c'est pour voter pour un petit gros que je déteste, là, je dis non. Vous venez passer vos vacances en Auvergne-Rhône-Alpes cet été, madame Julie? Non, je ne crois pas. Donc comprenez que je veuille me barrer aussi.
Bon, écoutez, à bientôt.
On veut tous quitter nos régions.
Oh, parlez pour vous. On va parler du Tour de France maintenant. On a tous vu les images de cette spectatrice qui, au bord de la route, a fait chuter des dizaines de coureurs. Certains ont été blessés. Hein. Pierre Ménès, bonjour.
Oui, alors, bonjour.
Vous en avez pensé quoi, vous, de
cette
scène?
Écoute, moi, je suis un peu choqué par la violence de vos propos à l'endroit de cette pauvre femme, Mme Julie.
Hein?
Bah, écoutez, ça, c'est typique de notre société patriarcale qui écrase systématiquement la femme. D'ailleurs, je tiens à lui témoigner ma solidarité et je milite pour un Tour de France mixte. Voilà. Écoutez, excusez-moi, mais les femmes ont parfaitement le droit de participer au Tour de France et de faire du vélo. Hein. C'est le Tour de France qui est quand même, aujourd'hui, il faut bien le dire, une compétition vieillotte et qui pue la testostérone. Hein. Il est temps que ça change, hein,
non,
je
mais
le dis.
Attendez, vous êtes sérieux, Pierre Ménès? C'est quoi ce discours-là?
Ah ben oui, tout à fait, tout à fait. Hein, je suis sérieux. Non, attends, 10 secondes, 2 secondes. Attends,
Qu'est-ce
je consulte le truc sur mon ordi. Hein, je veux voir si Canal Plus me réintègre avec après les conneries féministes que je viens de débiter à l'instant. Là.
D'accord.
C'est jamais.
Bah écoutez, ça n'a servi à rien. Apparemment, Pierre, vous pouvez rester vous-même. Hein.
Ouais, mais Canal Plus ne me reprend pas. Hein.
Ah ben non.
Oh, les cons. Bon, ben voilà, je me lâche la connasse là sur le bord de la route. Non, mais franchement, ça prouve que les bonnes femmes, elles ont non seulement elles sont nulles en sport, mais elles sont même nulles en supportrice, c'est-à-dire. Hein. Elles regardaient même pas du bon côté, cette connasse. Alors, je le redis pour les gonzesses qui nous écoutent, hein, les Julie, les Agostini, les Fulpins.
Oh, dites-donc, et oh.
On ne met pas de coups de pancarte dans le front des coureurs. Hein. Et puis, ça, c'est le petit 1 et le petit 2. Il y a des compétitions sportives pour vous, mesdames. La plus grosse omelette, je ne sais pas, ou une compétition du genre je repasse 12 chemises en 4 minutes.
Oh là là.
Voilà, je dis vive le sport féminin, ça n'empêche pas.
Arrêtez, Pierre Ménès.
Je sens qu'on progresse. Il y a du progrès quand même. Merci Julie. Et merci Nicolas Canteloup, la revue de presse qu'à retrouver sur Europe1.fr. On salue Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de la revue de presse. 8h56. Il est là, Philippe Vandel. Culture Média va démarrer dans quelques toutes petites minutes. Bonjour mon cher Philippe.
Exactement. Bonjour Mathieu. Notre info média du jour va s'intéresser aux éco-tournages. Vous savez ce que c'est?
Non.
Ce sont des tournages éco-responsables. Et c'est désormais possible. La production s'intéresse à la réduction de l'impact environnemental, par exemple. exemple, ça passe par une réduction de consommation d'eau, des piles, les cafés sur les tournages, même les déplacements. On
sera le gros scotch noir qui colle partout là.
Le gaffeur, ça s'appelle, exactement. Il faut en moins en utiliser. On sera avec deux acteurs de ce changement, des producteurs, Julien Tricard et Mathieu Delahousse. Au sommaire également, la journaliste Anne-Sophie Lapix, avec elle on va faire le bilan de sa saison à la tête du 20h de France 2, puis aussi les émissions sur les régionales hier et dimanche dernier, puis aussi son nouveau défi, la co-présentation du 14 juillet aux côtés de Julien Bugier et Laurent Delahousse. Et puis enfin, l'immense comédien Jacques Weber pour Correspondance, pièce consacrée à la correspondance justement, c'est bien trouvé ce titre, entre Victor Hugo et Gustave Flaubert, et aussi ses projets. Il y a une kyrielle de projets, on ne sera pas trop d'y aller jusqu'à 11h.
Cela dit, j'imagine, ça donne envie, hein, la correspondance entre Hugo et Flaubert.
Ouais.
Ce sera avec Jacques Weber,
exactement.
Culture Média,
oui.
La référence de la culture et des médias sur Europe 1 de 9h à 11h tous les matins avec Philippe Vandel et toute son équipe bien sûr. Je vous souhaite une très belle journée, malgré l'orage, hein. Vous avez entendu Laurent Cabrol, une très belle journée quand même. Je reviens. Bon match aussi, pardon, à suivre, à vivre en direct, en intégralité sur Europe 1 à partir de 20h. Je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même. Et puis on se retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.